Merci. La liberté ?
Oui.
L'existence. L'existence.
Bon, c'est intéressant de terminer là avec Baldine sur le mot désir, puisque vous aviez vu que ces journées portaient le titre de désir d'espoir. Et j'avais proposé même avant à Françoise de dire désir de savoir, virgule, désir d'espoir. C'est exactement ce sur quoi vient de ponctuer sa conférence Baldine Saint-Girons. Donc c'est intéressant, on revient à notre titre de ces quatre journées.
On trouvait le titre, ça faisait un peu scolaire.
Ouais,
c'était donc un peu trop. Donc on voulait être plus dans l'émotion.
Voilà.
Mais c'est pas facile.
Non. C'est pas facile.
C'est pas facile.
Mais tu as résolu la question en mettant désir au pluriel, de désir au pluriel d'espoir.
Oui.
Bon alors, moi, toutes ces journées sont marquées quand même, vous l'avez compris, d'une certaine façon, et c'est toujours un peu le cas, c'est normal, par un contexte mondial malgré tout difficile. Hein, on voit bien que même si dans l'histoire de l'humanité, elle en a connu d'autres, l'humanité, mais c'est vrai quand même que là, nous vivons des moments relativement difficile, en tout cas là pour ce que nous connaissons nous de notre génération. Et puis bon, il y a aussi ce côté aussi peut-être un peu difficile de l'école des filles. Est-ce que ces merveilleuses journées voilà. Donc il y avait l'idée de, on en revient toujours au problème face à des grandes difficultés. En fait, on en revient toujours au problème. Qu'est-ce qu'on fait là? On existe ou on n'existe pas? Alors évidemment. Il se trouve que donc j'ai beaucoup lu le philosophe Henri Maldinet, puisque vous savez que c'est un philosophe donc qui s'est intéressé au langage, à la folie et à l'art, et même j'ai appris par Philippe Grosos à la préhistoire. Donc c'est absolument formidable. Mais en tout cas, il est évident que dans des périodes difficiles, dans des périodes justement un peu aiguës et en même temps émoussées, parce que on voit bien qu'on est confronté à des drames absolus, la guerre. À des drames sociaux et en même temps on voit bien que parfois il y a des choses qui s'émoussent, on voit bien que du coup il n'y a pas de surmoi dans certains actes de débandade totale, donc tout ça est au fond très difficile il se trouve que donc je proposais l'idée d'introduire une espèce de début de philosophie, de ce que j'appelle de la philosophie de la résistance, parce que comme le dit très bien France Gall, comme disait Françoise Livinec, et pas France Livinec, résiste, prouve que tu existes. C'est vrai que cette chansonnette merveilleuse, hein, dont on connaît tous la mélodie, hein, il y a quelque chose de profondément vrai. En fait, c'est même pas résiste, prouve que tu existes. J'ai essayé, en travaillant la question, de dire qu'en fait, on se demande même, si on veut essayer de formuler un comprendre sur l'existence, eh bien, en fait, que l'existence, ça aboutit parfois à résister. C'est-à-dire que résister et exister peuvent apparaître synonymes. Alors, il se trouve que l'intérêt de ces journées, c'est pour ça que j'ai proposé ça, puis il se trouve que j'avais planché sur la question dans le cadre d'une autre société de réflexion. Donc, je me suis dit qu'effectivement, on pouvait essayer de, comme l'a très bien dit Philippe Grosot hier, et comme l'a dit à sa façon Baldine Saint-Girons, qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est d'abord avoir un talent d'observation aigu, essayer de comprendre, et surtout de formuler un comprendre. C'est ça, les philosophes, vous avez vu, Philippe a essayé hier de voir que le philosophe ne doit pas se laisser bluffer par des apparences, il doit au contraire être extrêmement excité, stimulé par les oxymores, par ce que nous disait Baldine, c'est ça, hein, l'excitation, et puis c'est pas le tout. Après, on l'a vu, comme Baldine nous l'a bien dit, que c'est très compliqué avec les mots, parce que ça recouvre pas les choses, donc il faut percevoir, comprendre et formuler un comprendre. J'ai tenté d'essayer de faire quelque chose autour de ce phénomène que nous avons tous plus ou moins vécu, qui est de résister. Bon, il y a différentes façons, je vais y venir. Alors, ce qui est amusant, et ce que je voudrais surprendre mon ami Baldine, c'est de montrer que lorsque j'ai voulu travailler cette question, on va y venir, mais vous savez, bon, il faut essayer de faire, justement, essayer d'être compréhensible, de se faire comprendre, de se faire entendre. Et donc, ben voilà, vous prenez le mot résister, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçu, je vous montrerai, que donc j'ai essayé de diviser, exactement comme Baldine Saint-Girons a fait pour le sublime, d'abord un côté théorique, le sublime comme résister, On peut l'envisager sur un plan théorique, c'est-à-dire avec le sentiment d'insuffisance. Et puis sur un côté pratique, qui serait une expression de la volonté, là avec un sentiment d'impuissance. Bon, donc je voudrais venir. Alors, si on admet que l'existence est une, comme le dirait très bien ce philosophe Henri Maldinet, l'existence est une exigence à l'impossible. Ça paraît dur à entendre, mais quand on réfléchit bien, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une exigence à être soi face à l'inenvisageable. C'est ça l'existence. C'est être soi face à quelque chose dont vous n'avez pas idée a priori. Donc, si l'on admet aussi que l'émotion dont on ne parle, dont on ne fait que parler, au fond, en art, en philosophie, même en, devant le sentiment infini de la durée humaine, historique, si on admet que l'émotion, c'est notre capacité à accueillir un événement. C'est ça l'émotion. C'est une capacité à accueillir un événement, c'est-à-dire ce qui arrive tout d'un coup, hors d'attente, ce qu'on ne prévoit pas, ça nous fait voir le monde autrement. Alors s'impose, comme je le pense, s'impose à nous immédiatement l'idée de résistance. Et je vais vous le montrer. Et la résistance, c'est quoi? C'est une tension vers, c'est une aspiration et une expérience avant toute connaissance scientifique. Alors, on pourrait dire que l'existence commence en fait chez quelqu'un qui se sent inexister. Parce que figurez-vous que ça arrive. On peut l'avoir, ce sentiment, en étant normopathe, comme on dit, mais évidemment, c'est un sentiment. Le fait de se sentir inexister est le propre à la psychose, à la psychopathologie. Enfin, on peut tous avoir des moments où on se dit, mais est-ce que j'existe? Bon. C'est donc un premier défi originel. Ce premier défi, donc comme je le disais, c'est ce que ne relève pas le psychotique, qui ne peut au mieux qu'exister son inexistence. D'une façon générale, il faut, pour exister, qu'il y ait en nous une profondeur variable, un écran opaque, qui nous renvoie nos paroles, nos attitudes et nos comportements comme autres. Comme le BSG, beau, sublime, grâce, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est remonté par rapport à ce que tu disais. N'est-ce pas, d'une certaine façon, au fond, la première forme de résistance? Si je vous dis qu'on a besoin en nous à une profondeur variable d'un écran opaque, vous voyez bien que tout de suite, il y a une résistance. Donc, on a l'impression que déjà dans ces premières façons de formuler un comprendre, on voit bien que exister et résister, au fond, c'est peut-être la même chose. Alors, avant même que se présente à nous quoi que ce soit, nous sommes contraints à résister à l'inexistence. C'est ainsi qu'une philosophie de la résistance nous renseigne sur l'existence et sur ses échecs surtout, en renouvelant le sentiment de notre présence au monde. La présence est une résistance. Alors, oser cette introduction, je ne veux pas trahir un secret, mais Baldine, un jour tu m'as dit que tu avais la grande humilité, qui est tout à ton honneur, de te déclarer, comme bien que très grande professionnelle de la philosophie, une apprentie philosophe, tout le temps en quelque sorte. Non ? Oui ?
Oui, oui, oui.
Voilà, alors moi je dirais que je suis un stagiaire d'apprenti, aux côtés de Baldine Saint-Giron, de Philippe Grosos, mais en tout cas, il faut quand même oser l'idée d'une introduction à une philosophie de la résistance. Ça suppose d'envisager donc, comme je l'ai dit, d'une part une résistance théorique et d'autre part une résistance pratique. Même si cette division tend à se dissiper en raison des nombreux paradoxes, on y revient sur les fameux paradoxes très stimulants, qui se présentent quand on chemine entre lutte ou alors renoncement pour exister. Alors, cette distinction théorique et pratique a l'avantage d'englober, en fait, la différence entre une résistance intérieure, intime, à ne serait-ce qu'arriver à rester en vie, tout simplement, et puis une résistance ostensible, active, tournée vers l'extérieur, ou encore ça englobe la distinction entre une résistance non violente et une résistance agressive. Car au fond, à qui et à quoi résiste-t-on ? Au pouvoir, à une puissance supérieure, mais aussi au pouvoir de l'intérieur, de la force des pulsions, précisément. Les menaces viennent autant de l'extérieur que de l'intérieur. On voit donc d'emblée la polysémie du concept de résistance et de sa définition mouvante, un peu comme Baldine Saint-Girons pourrait le dire du sublime. Il y a quelque chose il y a une polysémie, il y a quelque chose de mouvant. Pour faire face, doit s'établir une subtile alliance entre un travail d'acceptation et de refus. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte qu'au fond, le verbe résister peut se décliner de multiples façons, entraînant une nouvelle définition de la notion de phénomène. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire un phénomène, ça serait non plus ce qui se manifeste ou apparaît comme tel, mais ce qui résiste, ce qui s'oppose, ce qui retient ou tout simplement insiste. Vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, le phénomène n'est plus ce qui apparaît, mais c'est ce qui insiste. Vous voyez qu'en prenant une différence de point de vue et d'analyse d'un phénomène, comme résister, tout d'un coup, ça chamboule notre vocabulaire du phénomène. Existence, résistance, même combat. L'un ne va pas sans l'autre dès l'origine. Résister serait alors une propriété du vivant cellulaire, puisque c'est des choses qu'on peut examiner en biologie cellulaire. Et bien sûr, psychique. Alors donc, envisageons la résistance comme une exigence de la pensée. Hein, c'est la version théorique. De même que Baldine Saint-Girons l'a expliqué dans son Fiat Lux, au début, l'idée, ça serait que le sublime, il y a quelque chose d'une exigence de la pensée. N'est-ce pas ?
Oui, c'est la sensation de la présence des choses.
Voilà.
Et c'est un texte de Hamann qui est Estética in Nuce, et dans lequel il définit justement cette sensation de la présence des choses. Il faut que vous imaginiez en montagne, il y a un texte de Flammarion que j'avais repéré qui était assez intéressant ce sujet, parce qu'il montrait comme c'était des tableaux successifs qui apparaissaient vers la lumière, et que la sensation de la présence des choses augmentait avec cet éclaircissement du paysage.
Donc, on a donc une exigence qui naît du sentiment d'une insuffisance. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors, des philosophes comme Emmanuel Lévinas ou Emmanuel Falk, les deux Emmanuels, là, ont fait, eux, du plein de la résistance, le ressort même de toute pensée. Il s'agirait de sortir de l'irénique, de l'évangélique, hein, pour se confronter au tragique, tout en considérant que l'espérance et la joie peuvent devenir des formes de résistance. Alors, on se rappelle, je vais faire un peu comme Baldine, faire des allusions à l'Antiquité grecque, on se rappelle que dans la Voilà de Zeus, hein, ouvrant aux mortels les voies de la sagesse, leur donnant l'ordre d'apprendre par l'épreuve. C'est le fameux pataimatos, hein, dans Eschyle, dans la Agamemnon d'Eschyle. Mais il est là question d'une forme d'endurance, de persistance, de patience et finalement de résistance. On apprend dans l'épreuve et c'est là que se développe notre première capacité à endurer, à être patient et donc résistant. Il faut bien comprendre que le réel s'oppose à nous et à la pensée. Dans ce cas-là, il doit se confronter au tragique en résistant. C'est le réel lui-même qui résiste. C'est même pas nous, c'est le réel qui nous résiste. Le grand poète Charles Juliette parle d'avoir soudain la force de se tenir face à l'impensable, puis de s'apprêter à lui donner forme et existence. Alors, par exemple, sans mentionner les drames actuels, passés ou futurs, d'ailleurs surtout futurs, parce que là on a une situation effectivement Mona Ozouf, l'a très bien dit dans son article dans West France sur l'école des filles. Elle est quand même très inquiète. C'est vrai qu'on est à la fois dans une situation difficile au présent, mais qui augure mal. Enfin, c'est pour ça qu'on dit désir d'espoir au pluriel, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui arrive, il y a quelque chose de l'ordre d'inquiétant, soyons clairs, ce qui nous résiste. Hein, il y a quelque chose qui résiste fortement. En tout cas, le vide, par exemple, ou l'inattendu, peuvent être vécus comme violents et agressifs. Hein, c'est assez classique, qu'ils le soient objectivement ou non. Hein. Et la réaction se fait de façon plus ou moins adaptée, de façon plus ou moins pathogène, appelant d'ailleurs ou non le besoin d'une thérapie. Maldinet le disait bien, l'existence se constitue à travers des états critiques où l'on est à chaque fois mis en demeure par l'événement d'être soi ou de s'anéantir. C'est une phrase qui vous paraît lourde, mais au fond, vous pouvez l'expérimenter chez vous quotidiennement. C'est vrai qu'on traverse des états critiques où à chaque fois, c'est simple, on a quand même deux voies possibles. On est mis en demeure par l'événement de s'affirmer ou de s'anéantir. N'est-ce pas ? Bon, c'est une chose qu'on peut tous expérimenter émotionnellement assez régulièrement. Alors, s'agit-il de lutter contre ce qui arrive et qui est inanticipable ? La fameuse phrase de Maldinet, le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. Donc, s'agit-il de lutter contre ce qui arrive et qui est inanticipable, ou s'agit-il d'accueillir, d'admettre, d'endurer ce qui arrive et qui est inéprouvable ? Éprouver ce à quoi jamais on ne peut s'attendre. Ça aussi, c'est des phrases qui paraissent lourdes. Et pourtant, c'est exactement ce que nous vivons très souvent. Nous éprouvons ce à quoi jamais on ne pouvait s'attendre, même des détails. N'est-ce pas d'ailleurs l'expérience de l'œuvre d'art ? C'est-à-dire de l'expérience du faire œuvre, lorsque vous êtes artiste, ou de la contemplation d'œuvre quand vous circulez dans les salles de l'école des filles, qui ouvre à l'altérité, qui sauvegarde le monde, qui métamorphose le sujet et renforce les liens. Alors, et si on prend un gros dessus, avec le sublime, ce côté libératoire. Résister donc met en œuvre la force de l'intrication entre ambivalence et complexité. L'existant, je le répète, est un résistant. On résiste parce qu'on existe. Alors, si on prend des références picturales contemporaines, si vous voyez par exemple la peinture de Lucian Freud ou de Francis Bacon, c'est une parfaite illustration. Il y a une résistance à la déchéance, au vieillissement, aux institutions académiques, dogmatiques et bien sûr au destin. Je disais à propos du destin, au fond, l'existence, qui là on rejoint aussi existence et résistance, c'est qu'au fond, et je le disais à Baladine, au fond nous avons tous des destins d'acrobates. La vie nous joue des tours et on est obligé, d'une certaine façon, d'effectuer de multiples acrobaties. Nous avons des destins de circassiens. Hein, vous savez, les circassiens, c'est les praticiens du cirque. En fait, nous avons des destins de circassiens. Il faut, d'une certaine façon, sans arrêt, se débattre sans pour autant boiter et en même temps faire des acrobaties. Et au fond, c'est aussi une certaine forme, si je veux formuler le comprendre de ce que c'est que résister, on est là, on en est là aussi. Hein. Alors, autrement dit, donc, il y aurait fusion en notre volonté active et notre réceptivité passive devant l'avènement d'une œuvre et l'ouverture d'un monde. D'autant plus avec le sublime, par exemple. C'est là où on pourrait vraiment aussi frayer un chemin de développement de son sens. Dont nous sommes l'ouverture d'un monde, dont nous sommes le « là », comme dit Maldinet. On est le « là » du monde. Sans nous, le monde existe, certes, mais vous voyez bien qu'on est le « là » du monde. Hein. La musique, par exemple, qui, dans son élaboration même, travaille la résistance, a été à l'origine de la capacité des musiciens déportés à se forger une résistance leur ayant permis de continuer à vivre dans les conditions extrêmes des camps d'extermination nazis. Et même au-delà de leur mort, en léguant la vitalité de leur création. Penser l'impensable, concevoir l'inconcevable sans méconnaître, comme le fait l'impatience, L'apostrophe IM, la résistance même des êtres et des choses. La résistance s'oppose ainsi fondamentalement à l'impatience. Et ça, je crois aussi, c'est très important de bien faire cette remarque. Alors, ces points de vue ne sont pas en contradiction avec l'idée de résistance en psychologie sociale, politique ou même analytique. René Char écrivait que les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort. Donc, toujours sur ce point théorique, hein, nous avons donc une résistance du moi, hein, comme disent les psychanalystes, une résistance de l'inconscient, hein, et voire un masochisme originaire. De fait, la question de la résistance, par exemple en psychanalyse, reste tout à fait ouverte. On sait que tout investissement, par exemple par un patient, hein, en cure psychanalytique d'un fait qui ralentirait le processus thérapeutique, fut d'abord vécu comme une résistance. Pour ceux qui savent, c'est-à-dire que... Mais ça peut se passer aussi dans n'importe quel cadre de soins. Hein. Vous allez voir un thérapeute, de quelque nature qu'il soit, et il se trouve que vous pourriez constater... dans le cours de cet accompagnement thérapeutique, que quelque chose bloque. En fait, ce qui se passe, c'est que pour des raisons très inconscientes, vous résistez. Vous résistez aux indications thérapeutiques ou alors au protocole, ne serait-ce qu'un instant. Il y a toujours quand même chez l'être humain, même lorsqu'il est en soin, de proposer une forme de résistance. On voit, tout d'un coup, on dit, il y a un patient, en fait, il va oublier de prendre un médicament, ou alors il va pas aller au rendez-vous, ou alors il va pas suivre tout à fait les consignes. Bon, on voit bien que c'est vrai que ça vient enrayer le processus de soins, mais en même temps, Freud lui-même est revenu sur ses propositions en disant que ça fait partie, justement, du processus. Hein. Donc, tout événement, par exemple, considéré comme un obstacle à la thérapie, ne pouvait plus simplement être vu comme une résistance. Bon, alors, si on rentre d'une seconde dans les détails, on voit bien qu'il n'empêche quand même. La reconnaissance du masochisme ne vient pas contredire cette résistance à la guérison. Vous savez qu'en gros, pour faire très court, pour aller à peu près bien dans la vie, il faut être un tout petit peu maso. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'il faut en fait considérer des choses parfois très difficiles, comme au fond assez faciles. C'est ce qu'on appelle le masochisme vital. Sans masochisme vital, nous sommes dans un sale état, dans de mauvais draps. Et tous, heureusement, nous avons une forme de petit masochisme qui nous fait, au fond, accepter et puis tolérer, comme n'étant pas totalement insupportable, des choses qui, objectivement, le sont un peu. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il y a une dérive. Il y a des gens qui développent un tel plaisir à prendre du plaisir à ce qui est déplaisant, ça devient du masochisme mortifère. Là, évidemment, c'est très pathologique. Mais il se trouve quand même que le masochisme est à l'origine de la vie. C'est ce qu'on appelle le masochisme originaire, qui est au fond une sorte de masochisme résistance. Là aussi, on est encore dans une forme de résistance. Parce que c'est une fonction, il y a une fonction autoprotectrice contre la destructivité qui se place au début des processus vitaux. Donc, on voit bien quand même que la résistance à tout moment intervient. Vous voyez qu'on est toujours confronté et c'est toujours aussi difficile de formuler la chose. Mais bon, on peut y arriver si, évidemment, dès qu'on se place un peu sur des plans scientifiques, thérapeutiques, plus ou moins médicaux, là, on comprend certaines choses. Et puis, vous avez vu aussi qu'en art, on voit bien que certains artistes sont des artistes de la résistance contre tout ce qui arrive, et des poètes, hein, je vais vous en parler encore. Les poètes, évidemment, Les écrivains ont évidemment, sans parler, là j'y viens, donc ce deuxième aspect de comment formuler le comprendre de la résistance, ce deuxième côté qui serait le côté pratique et qui serait la résistance comme une expression de la volonté. Hein? C'est d'abord, donc, on l'a dit, une exigence de la pensée, mais c'est aussi une expression de la volonté. Alors comment il vient cette expression de la volonté ? Elle est formée à partir d'un sentiment d'impuissance. Tout à l'heure, on a dit que c'est un sentiment d'insuffisance. Et là, sur un plan concret, on est face à un sentiment d'impuissance, d'injustice, de peur, de révolte face à une agression, à un danger. On l'a tous, vous voyez tous ce dont je veux parler, même si ce sont des choses pas très graves, vous voyez bien que vous avez subi forcément dans votre vie une petite injustice, vous avez eu peur, il y a une agression, qu'elle soit physique ou verbale, il y a un danger. Mais les grands spécialistes, psychologues donc, qui ont étudié cette chose, relèvent que pour qu'un individu, un groupe résiste, il est nécessaire qu'il apprivoise et même tende à se défaire d'une peur, celle de mourir. On s'est rendu compte dans les études des comportements, c'est que si vous voulez résister à une agression, déjà, il faut que s'évanouisse en vous la peur de votre propre mort. Donc, vous voyez, il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre, si je peux dire, et ça, c'est un phénomène extrêmement important. Et on voit bien que l'art développé, là, est thérapeutique aussi, d'une certaine façon. Hein. Mais là, je vais vous parler de choses plus concrètes. Hein. La clinique nous enseigne que la résistance à la déshumanisation s'invente d'abord dans l'intime aussi. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut résister face à ce que ont vécu nos anciens avec les nazis et ce que vivent les Ukrainiens ou ce que vous voulez, tous les gens qui sont... Il y a d'abord... la résistance, ça s'invente dans l'intime. Face à un événement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Un intime qui veut rester aussi libre que possible, avec la capacité de perpétuer le dialogue avec les objets intérieurs, quand le fracas du monde tente à submerger le psychisme. Donc toujours garder un lien avec son interne et avec ses objets, comme on dit en psychanalyse, ses objets intérieurs. Mais pour être encore plus concret, il faut quand même se rappeler que, et Mona Ozouf ne serait pas là, j'espère, pour me contredire, mais dans la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, la résistance est un droit naturel. C'est-à-dire que quand l'autorité devient arbitraire et oppressive, la résistance est un devoir et ne peut être assimilée à la révolte. L'appel à la résistance est hautement politique et légitime en raison de la rupture du contrat qui lie les individus au sein de la société. On peut donc dire que la conduite de la résistance est aussi inscrite au cœur de l'identité protestante dans la mentalité collective des Huguenots, par exemple. Alors, évidemment, c'est un exemple historique, micro-historique, penserait Philippe Grosos, mais bon, les historiens sont bien obligés de parfois avoir des micro-sociétés très datées et très récentes. Mais vous vous rappelez qu'évidemment... La situation historique de persécution que les Huguenots ont eu à subir, mais il faut bien se voir que, par exemple, c'est un exemple, et chez les Huguenots, malgré leur persécution, dès l'origine, la doctrine protestante a mis en pratique la résistance, particulièrement au moment de l'affaire Dreyfus et pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, si on revient à l'actualité un peu mode, j'aurais aimé, mais malheureusement, il ne pouvait pas aussi, qu'on invite un jeune philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est connu par beaucoup de gens, parce qu'il se fait bien connaître par sa philosophie du vivant. Bon, c'est lui qui va... Enfin, vous connaissez. En tout cas, il y a une chose qui m'a intéressé. Quoi qu'on pense de lui et de son œuvre, qui est quand même à ses débuts, c'est un jeune philosophe, mais il a dit une chose très intéressante. Il est très intéressé par les problèmes écologiques, ce qui n'est pas surprenant de la part de quelqu'un d'une quarantaine d'années. Bon, voilà. Alors, il a dit une chose formidable. Il a dit « Nous ne pouvons pas arrêter la catastrophe écologique, mais ne pouvons-nous pas donner à nos actions un sens qui soit quand même irréductible ?» Donc, il a réfléchi, il voit bien que Il voit bien que le coup est parti et qu'on est un peu dans la merde, soyons clairs. Bon, mais que, bon, il faut faire des choses. Mais bon. Et il est dit, je voudrais trouver quelque chose qui soit quand même qu'on puisse pas, qu'on puisse plus développer une espèce de petit point d'ancrage. Et lui est venu, la réponse lui est venue très vite. Il a dit, c'est le verbe résister. C'est intéressant. En fait, c'est vrai. Face aux catastrophes, la première chose qu'il y a à faire et qui est insécable, on ne va pas couper les cheveux en quatre, on dit résister, c'est résister. C'est exactement ce que la figure des justes a été aussi évoquée. Vous savez, pendant la guerre, les justes n'ont pas arrêté la Shoah. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun moyen d'empêcher la catastrophe. Cependant, même dans le nœud de cette impuissance, leur action a un sens qui est irréductible, c'est résister. Alors, évidemment, quand on parle de résistance, on pense à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, au comportement des gens ou à d'autres, mais c'est vrai que le mot résister, résistance, est très marqué pour certains d'entre nous sur cette période de la guerre. Mais évidemment, tout nous conduit à penser à la réalité génocidaire, mais on la voit dans le monde encore actuel. Il y a des réalités génocidaires, des destructivités, des sauvageries, de la haine. En fait, le problème, c'est qu'on voit bien que rien ne peut être exorcisé à l'aide d'une argumentation rationnelle. Quoi qu'il en soit, le vivant reste confronté à la mort, évidemment, qui lui est consubstantielle, mais aussi, incongrue qu'elle paraisse, la mort, dans son statut d'aboutissement, reste dans le champ de ce qui est possible d'apprivoiser. Contrairement aux attaques, aux agressions et aux catastrophes humanitaires. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir résister, il faut déjà, au fond, oublier sa propre mort ou la rationaliser. Donc si la résistance se réclame de valeurs morales, qu'elle veut reconquérir comme la liberté, la justice, l'humanité, il y a donc aussi un refus des violences et des discriminations et donc aussi une volonté de combat. Volonté qui n'est pas sans risque, comme le sacrifice d'une vie, par exemple. Parce qu'on peut l'envisager comme ça. Une résistance, résister, ça peut être sacrifier sa vie. Alors, ce qui est intéressant, tout le monde connaît le poème, vous savez, de Boris Vian, Le Déserteur. Alors, ce qui est très intéressant dans les recherches que j'ai pu faire, c'est qu'il faut savoir qu'il conclut, je vous le rappelle, il conclut comme ça dans Le Déserteur, il dit « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. » Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écrire la formule que nous connaissons tous, Boris Vian avait écrit « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je possède une arme et que je sais tirer. Alors, il y a d'autres... Vous voyez, c'est intéressant aussi. Là aussi, on est sous une forme, cette fameuse oxymore, cette fameuse façon de penser l'opposé. Et en même temps, vous voyez que cet homme, ce poète, a quand même choisi la version finale, mais il avait posé l'autre option. Alors, il y a aussi un autre célèbre poème d'une résistance allemande qui s'appelle Marianne Kohn, que peut-être vous connaissez, qui a été résistance allemande, mais active en France, résistante, torturée et assassinée, bien sûr, en 1944. Et elle disait la formule suivante, qui, c'était un poème qui s'appelle « Je trahirai demain ». Ça nous montre combien la résistance, comme l'existence, au fond, n'est pas un projet. C'est une présence dans l'instant, une mise sous tension, une expérience dans le « ici et maintenant ». Je vous montre donc des courses d'extrait. Elle disait « Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues, vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. » Définitivement, vous voyez qu'on voit bien que le thème de la résistance ouvre une nouvelle voie pour un resserrement. C'est un peu ce que j'espère faire. Un resserrement des liens entre la philosophie, évidemment, puisque là on est en plein dedans, essayer d'observer, comprendre, formuler un comprendre avec toute la difficulté que c'est, mais aussi au fond avec l'esthétique. Vous voyez bien que quand même on pourrait essayer de tirer la bobine là, sur art et résister, ou la résistance de l'art, la résistance à l'art, ou on peut faire des tas de choses. Voilà, donc c'est les liens entre, encore une excellente occasion que je fais très humblement et pas du tout avec des années de travail. En tout cas, c'est quand même quelque chose de très à la fois stimulant et de très prenant. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut plus penser l'existence autrement que aussi comme une forme de résistance. Donc c'est un moyen de définir l'existence et l'existence de définir la résistance. Voilà, je vous remercie.
Et la chanson de France Gall ?
Tu la chantes ?
Non, c'est toi ?
Ah non, je ne sais pas la chanter. Moi, je sais pas. Qui sait chanter la
qui
chanson
chanter,
de France
Gall ?
Charlotte, tu sais, toi, non ? Oh, mais vas-y, quand
Monique,
même.
Monique. Non. Bon, Philippe, une question de philosophe ?
Pourquoi pas ? La cherche, la trouve, ça y est. Commençons par Bernard.
Par exemple ?
Quelle drôle vision du philosophe, Philippe.
J'imagine qu'il doit jouer un peu le rôle de Troublion.
Très bien.
Donc Bernard, je suis désolé, tu commences.
Oui. Je suis prêt.
Est-ce que cette assimilation, quasi-assimilation entre exister et résister ne propose pas une définition de l'existence finalement fort négative et est-ce que on ne pourrait pas avoir envie de dire oui plutôt que non ?
C'est-à-dire que j'ai montré qu'on peut résister en disant oui. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le même problème. Bon, est-ce qu'on décrit négativement quelque chose ? On avait reproché beaucoup à ce philosophe Maldinet de dire que les psychotiques étaient en échec d'existence. Alors les grands psychiatres m'ont dit, mais vous comprenez, votre philosophe Maldinet, il décrit négativement la psychose. Alors je leur ai répondu, écoutez, certes, mais...
On voit ce que c'est, une psychose ?
Une folie, la folie.
La folie,
c'est un fou, c'est quelqu'un qui est en échec d'existence. Donc c'est vrai que c'est une définition un peu négative, comme on pourrait dire, voire unique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand on n'est pas fou, on est parfois en échec d'existence. Donc ce que je veux dire, et j'ai voulu le montrer, c'est-à-dire que résister parfois, ça peut être, d'abord, ça peut être non-violent, ça peut être tout à fait d'acceptation. Je l'ai montré un peu dans ce masochisme primaire, vital. Hein. Rien que ça, c'est vrai que, oui, on peut résister en disant oui. C'est ce que je veux dire, voilà. Donc, exister en disant oui. Un peu comme le clown. Vous savez, le clown, c'est comme un acteur, sauf qu'il a deux neurones, en fait. Et le clown, ce qui est formidable, c'est qu'il dit oui toujours et jamais oui mais. Alors que nous tous, on dit parfois oui mais. Eh bien, en fait, c'est vrai que la caractéristique du clown, c'est qu'il dit oui. Et oui. Oui à tout. Jamais, il n'y a jamais de oui mais. Alors évidemment, vous savez bien que les clowns, ça fait rire après, parce que ça tombe par terre, ça fait des bêtises, etc. Mais c'est oui, oui, exister. Alors oui, Philippe, non, tu as raison, mais je crois qu'il faut envisager, j'ai essayé de le montrer, que la résistance parfois peut être très positive au sens de oui, d'acceptation. Hein. Rien que le pataimatos d'Eschyle, c'est une forme de oui.
Et une question peut-être pour...
Baldine.
Baldine, elle attend, Baldine. C'est oui. La question.
Il y a sûrement d'autres philosophes.
Dans la salle. Y a-t-il un médecin, pardon, non, un philosophe dans la salle ? Un pilote aussi, oui, y a-t-il un pilote ?
Oui, quand même, une volonté, une question aussi pour Valdine.
Ah oui.
Histoire de faire marcher la parité. À vous entendre, j'ai été très, très saisi par ce que vous avez dit. Je m'interrogeais sur l'importance que la tradition asiatique chinoise pourrait apporter au sublime. Parce que nos références sont souvent évidemment très européano-centrées.
Oui.
Par celle de la philosophie elle-même. Est-ce que vous avez trouvé dans une tradition chinoise, vous l'avez un peu évoqué avec le
si.
Terme de grandeur, citant, mais est-ce que vous trouvez dans la pensée chinoise quelque chose qui soit un peu l'équivalent de ce que
Alors, c'est une question qu'il faudrait poser à Yolène Eskand, qui et qu'elle a traité. Bon, elle a cherché aussi en les mots en chinois qui pourraient dire le sublime. Et elle avait commencé par une thèse très remarquable dans les années 90 sur le vocabulaire de l'esthétique chinoise, c'était vraiment très intéressant. Or, les termes positifs, c'est miao, qui veut dire merveilleux, ou shen, qui veut dire divin. Bon, on a l'impression que c'est mal, c'est sacralisé, alors que pas toujours. Le sublime est lié au XVIIe siècle à une tradition catholique et au XIXe siècle, évidemment, avec Chateaubriand ou même Madame de Sales, à certains égards, le sublime et le sacré, le religieux, sont quasiment synonymes. Moi, j'ai voulu faire une philosophie laïque. En vérité, je prends la religion comme de la poésie, comme de la très haute création poétique, comme quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Et c'est pour ça, c'est que il y a Bichat qui a dit cette célèbre phrase: la vie est l'ensemble des pulsions qui s'opposent à la mort. Bon, et c'est une définition qui a l'air tautologique, mais qui est importante parce que il y a en nous une lutte entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Pour parler comme Freud, je crois qu'il y a une envie de mourir et une terreur de la mort, il y a les deux. Donc je trouve que quand tu dis quand tu dis qu'il faut se défaire d'une peur qui est la peur de mourir, est-ce qu'on peut s'en défaire comme ça? Bon, comme on se défait d'un encombrant. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose de terrifiant dans la mort. Et pourquoi est-ce que, par exemple, pourquoi est-ce que Dieppe se crève les yeux et pourquoi ça lui permet de devenir un quasi-dieu? Bon, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Et on peut trouver très, très beau et très sublime de dire mes funailles, plutôt ne jamais être né, ou ne pas être né. D'ailleurs, c'est jamais être né, c'est la version comique. Parce que pour pouvoir le dire, il faut être né. Donc ça marche pas. Bon. La difficulté finalement, c'est que pour que l'être tienne bon, il faut qu'il soit conflit, il faut bien qu'il soit à la fois désireux de mort et désireux de vie, bon, et qu'il soit hostile à la mort et à la vie. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est je trouve à penser la contradiction. Enfin, c'est un grand truc. Quand ça va pas bien, il faut penser que ça passera, quoi, que dans 2 heures, ça sera fini. Quoi. Bon, mais la mort, c'est un peu ça aussi, ça gère à ça. C'est la reine des terreurs et c'est en même temps celle qui vous permet de vous sortir des situations assez pénibles. Quoi. Bon, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que pour s'en sortir dans la vie, il faut quand même savoir transiger. Et résister pour résister, non. Parce qu'à résister à quoi? Quelle envie? L'envie de mort ou l'envie de vie?
Non, résister aux événements. Pas forcément de question de vie ou de mort.
Oui, mais tu as bien dit que qu'il fallait se défaire d'une peur qui était la peur de mourir.
Oui, alors ça c'est le cas extrême qui a été...
Un cas extrême qui a été repéré par des psychologues uniquement dans des situations genre génocidaires, c'est-à-dire au moment, juste le moment où il s'agit, c'est pas dans la vie normale, mais les moments critiques où vous êtes soumis dans un camp de concentration, si vous voulez résister, il faut déjà vous oublier votre propre mort. C'est ça qu'ils ont découvert en tant que psychologue à partir d'interviews. Mais c'est des situations très particulières. C'est pas la vie générale. Hein. C'est pas dans la vie supprimer l'envie. Oui, c'est uniquement dans des situations très particulières d'attaque massive. Pas dans la vie courante.
D'accord.
Jean-Michel, peut-être une question.
Capable de déranger, par quel cas il manifesterait une sorte.
Excusez-moi. Merci. Ben, moi, j'étais très passionnée ces derniers jours par un sujet que je essayais de traiter chez Bernard Monineau, qui est d'ailleurs un très bon philosophe et professeur à l'École des Beaux-Arts de Nantes et puis de Paris, et qui fait des œuvres qui m'enchantent littéralement. Et je me demande pourquoi. Parce qu'elles sont très abstraites, elles sont très volumétriques, suspendues dans l'espace, et elles me font penser au gribouillage de Léonard de Vinci, mais c'est en même temps autre chose. Enfin, vous savez, la grande exposition qui a lieu, s'écrit sur les gribouillages entre Rome et Paris à cet hiver. Et je me suis dit, c'est vraiment extraordinaire que l'oxymore me permette de penser ce travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le comble de l'ordre et le comble du désordre en même temps. Et je me dis, ça m'arrive tellement souvent maintenant de voir comment deux positions contradictoires ou contraires ou juxtaposées se font à maintenir, quand je l'essaye de les maintenir ensemble dans mon esprit, ça me fait progresser, que je me demande si vraiment on n'a pas trouvé dans cette étape d'éloignement de l'art non figuratif quelque chose qui est vraiment de sui generis et qui caractérise ce qui se passe en ce moment. Et il y a des publications, Jean-Christophe Baillet avait parlé du dessin élargi. Et c'est vraiment le dessin élargi au point qu'on sait plus ce que c'est que le dessin. Et alors quand j'ai vu que tout d'un coup, je me suis dit, j'avais lu ça, une chose sur l'oxymore dans Longin autrefois. Et quand j'ai vu que ça marchait si bien, puis ensuite quand j'ai repris le paradoxe, que j'ai repris l'hypallage, tout ça, je trouvais que toutes ces figures de rhétorique m'enseignaient très bien qu'il fallait toujours me tenir entre, pas seulement dans le visuel et pas seulement dans le parler. Et il fallait bien comprendre que finalement, c'est par l'apparence qu'on veut montrer la vanité de l'apparence. C'est quand même curieux. On utilise un élément de quelque chose pour le retourner contre la souche mère. C'est étonnant. Et alors, je pense que ça, c'est vraiment une des caractéristiques de on va jusqu'au bout de la contradiction. C'est vraiment pénible. Et c'est par exemple, pour comprendre ce que dit Bernard, j'ai eu un petit peu de peine, et j'ai encore un peu de peine, parce que pour moi, le terme de résistance est chargé de certitude et est lié à une dialectique de la volonté, comme tu l'as très bien dit. Et c'est la volonté. Ça me fait penser au texte de Richter, enfin la grande thèse de Richter. Et ce n'est pas un mot, parce que résistance, résister à quoi? Qui résiste? Qui résiste et à quoi il résiste? Bon. Et on est renvoyé au mystère de la vie. Bon. Alors, évidemment, à moins que ce soit pas du tout pour faire l'apologie de la résistance que tu l'aies développé cet exposé, mais pour montrer son ambiguïté, c'est peut-être aussi ça.
Oui. L'ambiguïté de l'existence aussi.
Oui,
évidemment.
Sur l'art, tu as des choses à dire, parce que tu es collectionneur, tu es amateur et tu es artiste.
Oui, alors moi je dirais, bien sûr, écoutez, de toute façon, moi je trouve que la mort de l'art, c'est une stupidité totale. Il y aura toujours de l'art tant que les gens seront capables d'étonnement. Le jour où il n'y aura plus d'art, si l'art n'est plus rien, alors je ne dis pas sous quelle forme, mais il n'y aura plus d'humanité. Hein, et puis là, c'est pas la préhistoire qui viendra nous contredire, puisque dès le début, dès la préhistoire, il y a eu de l'art, il y en aura. Alors, je crois que si l'art ne fait plus un office de quelque nature qu'il soit, ben, ça sera la fin de l'humanité. Et puis donc, moi, je voulais dire pour la résistance, résister, c'était l'idée que à la fois c'est une notion polysémique qui est mouvante et qui est donc intéressante. Hein, rien que le fait que ça soit soumis au paradoxal, devrait émouvoir en quelque sorte. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que parler de résister, du fait que c'était extrêmement polysémique, ambivalent, et en même temps, on voit bien quand même que j'ai fait un effort d'essayer de formuler, comprendre, qui pouvait être à la fois dans quelque chose d'agressif ou de totalement passif, de réceptif ou de combattant. Il y a tout. Donc, et c'est vrai qu'on, que, que, que j'ai trouvé qu'il y avait une profonde similitude avec simplement le fait d'exister. Alors, le mot résister est sans doute le mot a du mal à passer, sans doute. C'est ça aussi qu'il il est difficile.
Nous, à l'école des filles, on a ouvert il y a 15 ans avec une exposition qui s'appelait, on ne savait pas ce qu'on disait comme d'habitude, qui s'appelait « Résistance esthétique et poétique ». Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais ça se confirme au fil des années, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir ce qu'on voit, par exemple, ici, parce qu'il y a des flux, il y a des datas, les datas appartiennent à des grosses enseignes, on tombe dans le réel, mais c'est important aussi, le réel, dans des grosses enseignes et du luxe et de l'art, et de voir autre chose, c'est très difficile. La dernière fois que tu es intervenu, Jean-Michel, tu as été avec Annie Lebrun, et qui dénonce ça aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui de pouvoir regarder de la poésie, de la philosophie dans les textes, dans la pensée et incarnée dans des œuvres d'art. Et pour nous, au ULGOAT, c'est très important parce qu'il y a une résonance très forte entre le chaos granitique qui est en contrebas de l'école et il y a cette tension. Baldine tout à l'heure parlait du lac, mais il y a la forêt, il y a cet environnement de pierre, d'eau, de végétal, et puis il y a aussi cette polyphonie musicale des oiseaux. Et c'est des lieux quand même de résistance. On parlait, parce qu'on va faire une exposition, c'est drôle, très bientôt à Paris, qui va s'appeler Retiens la nuit. Voilà. Après France Gall, oui. retiens la nuit. Et il y avait une des artistes qui disait, mais maintenant il y a une survalorisation des endroits où on peut voir les étoiles, où il n'y a pas de nuisance lumineuse qui empêche de voir les étoiles. Donc tout ça, ce sont des lieux aussi de résistance. Et puis moi, je crois qu'il ne faut pas... voilà. Et puis ça demande aussi un effort. Comme vous avez tous fait un effort pour venir au ULGOAT, et ben, faut faire des efforts pour voir autre chose que ce qu'on voit très fréquemment et majoritairement dans les flux numériques. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, on va applaudir nos deux amis. Hein ? Et puis, je vous propose un échange personnalisé autour d'une dédicace de la capacité d'exister ou de Fiat Lux. C'est très, très beau, Fiat Lux. Peut-être juste deux mots sur l'expression Fiat Lux.
On aurait dû commencer par là. On va terminer par ce sur quoi nous aurions dû commencer.
Alors, je vais prendre ma quatrième de couverture, qui est en réalité... Élaborée à l'époque où l'Empire romain s'établissait sur les décombres de la République et où naissait puis s'affirmait le monolithisme chrétien, la catégorie du sublime, j'appellerais le principe du sublime finalement. Je pense que ce n'est pas seulement une catégorie, c'est un principe actif. La catégorie, ou plutôt le principe du sublime, jouit d'un regain de considération à la Renaissance pour connaître son apogée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque l'âge critique se livre à l'examen systématique de l'origine et des fondements des diverses formes de pouvoir. Trois grandes théories du sublime nous ont ainsi été léguées, celles de Longin, de Burke et de Kant. Construire dans cette perspective une philosophie du sublime, ce n'est pas seulement ressaisir les effets sur un témoin terrassé, pas humilié, hein, mais terrassé, c'est le bon mot, mais tenter la phénoménologie de ces véhicules privilégiés et analyser les multiples enjeux théoriques et pratiques qui nous sont alors révélés. Je crois que c'est vraiment, il faut lier la question du sublime à la question d'un enjeu qui surgit. Et justement, qu'il y a un enjeu, c'est pas pour moi, j'ai bien empêché de confondre l'enjeu et la résistance, si tu veux, parce que il faudrait pouvoir déterminer à quoi on résiste. Alors, catégorie sous laquelle s'opère historiquement la critique du beau, c'est... Le sublime ne se contente pas de mettre en cause l'esthétique en tant que discipline autonome, il subvertit l'ordre politique, l'ordre psychologique et l'ordre moral. J'essaie vraiment de montrer que le sublime est un principe de subversion. Pour nous rendre sensibles à un type de causalité originaire dont les titres s'imposent, tout en se dérobant à la légitimation. C'est le sublime ne cesse de se dérober au moment même où il s'apprésente. C'est ça qui le rend si difficile à saisir. Fiat Lux, qu'advienne non pas l'éclat que distribuent les grands luminaires, mais cette lumière intime où s'inaugure, selon Hamann, le sentiment de la présence des choses. Ce sentiment de la présence des choses, ce sentiment de l'intériorité et la différence entre la présence des choses et des choses est, je crois, fondamentale. Et je crois qu'il faut absolument essayer de comprendre comment l'extimité est notre lot, c'est-à-dire à la fois l'intimité et l'extimité et l'extériorité, et comment ils s'échangent en permanence. Ils échangent leurs valeurs, ils échangent leur place. Et c'est ça qui les rend si difficiles à saisir. Baldine.